Les nuits de France Culture.
Salvador Dali a-t-il, comme il le prétendait, sauvé le mouvement surréaliste de la torpeur, de l'assèchement qui le guettait, en déboulant chez Breton et sa bande en 1929, armé de sa paranoïa critique? Dans le 7e des 10 volets de Clé pour un théâtre-musée, la série produite par Daniel Lecomte, peu après l'ouverture en 1974 du musée de Figueras, le critique Robert Lebel, peu tendre avec lui, affirmait que sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, Dali n'était qu'un vantard, qu'un fada habile dont les préoccupations n'étaient en rien celles des surréalistes. Mais qu'était-ce au juste que ce procédé de création, cette paranoïa critique qui permettait à Dali de voir l'Angélus de Millet comme la peinture de l'échec du triangle œdipien? C'est ce que nous allons entendre dans cette 7e partie de la série de Daniel Lecomte, dans laquelle, outre Dali et Robert Lebel, on retrouvait la psychanalyste Claude Tiss, le psychiatre Henri Hay, le peintre Jacques Hérold, l'écrivain Henri-François Rey et le docteur Roumeguer, qui fut le psychanalyste de Dali. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, 7e des 10 épisodes, Le grand masturbateur, première diffusion le 14 novembre 1978 sur France Culture.
Avec Claude Tiss et le docteur Rey, nous avons commencé hier l'étude des images doubles chez Salvador Dali, images doubles qui sont paradoxalement peu représentées dans son théâtre-musée de Figueras. Aujourd'hui, Salvador Dali lui-même nous donne son point de vue.
Vous, vous avez compliqué le jeu parce que vous avez aussi mystifié le regard avec vos trompe-l'œil.
Pas autant que la Renaissance italienne, surtout les jésuites, et le padre Pozzo, que c'est le plus grand de tous, qui est devenu fou à cause de tant de mystifications, qui avait fait le San Ignacio à Rome, qui est le chef-d'œuvre de la fausse perspective. Et c'est impossible pour les gens savoir où ça commence un chapiteau et où ça continue celui qui est peint.
Oui.
Ça, le maximum, c'est dans le style jésuitique à Rome.
Mais pour vous, par exemple, dans vos images doubles, c'était l'expression de quoi profondément?
Ça, c'est le manifeste de l'activité paranoïacritique. C'est de faire voir aux gens ce qu'on veut.
Oui. Mais c'est donc pour vous quelque chose de dirigé, sciemment dirigé.
Critique, c'est dirigé. Non. Paranoïaque, c'est involontaire, puisqu'il y a des gens qui naissent avec les structures paranoïaques et d'autres pas. Mais quand on dit activité, déjà, c'est dirigé.
C'est peu de temps après son entrée dans le mouvement surréaliste que Dali a lancé la méthode paranoïa critique qu'il définissait ainsi. Connaissance spontanée, connaissance irrationnelle, basée sur l'objectivation critique et systématique des associations et interprétations délirantes. Il avouera plus tard qu'il ne savait pas bien ce qu'il voulait dire sur le moment, mais que néanmoins, sa méthode avait sauvé le surréalisme des répétitions sclérosantes auxquelles le condamnait l'automatisme de la pensée prôné par Breton. Robert Lebel, historien du surréalisme.
Ça, c'est encore une preuve de la vantardise incroyable de Dali. Quand il est apparu dans le surréalisme était en pleine vigueur, n'est-ce pas? Il n'est pas arrivé à un moment où le surréalisme était déjà en décadence. Il est apparu dans le surréalisme vers 27-28, n'est-ce pas? C'était l'époque où, au contraire, la peinture surréaliste, puisqu'il est question de ça, était au plus haut, n'est-ce pas? Il y avait des gens comme Max Ernst, comme Miro, comme Masson, qui avaient encore beaucoup de choses à dire, puisque ces gens-là ont continué à peindre pendant des années, alors que lui, Dali, est arrivé dans le surréalisme comme un petit garçon. Dire, par exemple, que cette paranoïa critique a bouleversé le surréalisme et qu'elle a sauvé d'une certaine torpeur, c'est absolument ridicule, n'est-ce pas ? Parce que à cette époque-là, les surréalistes n'avaient nullement besoin de Dali pour les stimuler. Ce que Dali a voulu faire, en arrivant à Paris, voyant qu'il ne pourrait jamais égaler Picasso, son compatriote, il a cherché autre chose pour éblouir. Il a trouvé les surréalistes qui composaient à ce moment-là le groupe le plus avancé, le plus novateur à Paris. Il s'est donc introduit chez eux, mais il a voulu les épater eux aussi, n'est-ce pas ? Il ne voulait pas se contenter d'un rôle de surréaliste de seconde zone. Il a cherché le moyen de les éblouir et de les étonner. Et dans une certaine mesure, il y a réussi parce que j'ai interrogé souvent Breton et les autres surréalistes sur l'effet que leur a fait Dali. Ils ont évidemment trouvé que c'était un garçon très ambitieux et qui cherchait avant tout à éblouir.
Toutefois, Breton, on admet qu'il ait été intéressé par cette paranoïa critique.
Il n'y a aucun doute. Mais non, mais vous comprenez, la paranoïa critique de Dali, théorisée, vient d'ailleurs un peu après ses débuts, n'est-ce pas ? Il a commencé par faire des tableaux où il a cherché à reproduire des états intérieurs, ce qui d'ailleurs était la règle dans le surréalisme, n'est-ce pas ? Il a adapté son académisme au surréalisme qu'il a découvert, n'est-ce pas ? Si vous voulez résumer les étapes de Dali, c'est un académiste, un pompier extrêmement ambitieux, légèrement fou, il n'y a aucun doute qu'il y a des signes de névrose authentiques chez Dali, mais qu'il a exploité de façon à s'adapter au surréalisme et, si vous voulez, à le surclasser.
Jacques Hérold, qui faisait partie du mouvement surréaliste lors de l'arrivée de Dali, confirme l'impression d'étonnement que firent ces tableaux sur les peintres groupés autour de Breton.
C'était merveilleux. Non, l'apport de Dali à l'époque, c'était tellement merveilleux que ça a un peu terni le visage et l'action, l'activité des autres peintres. Je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, Tanguy, était très ulcéré par la force que Dali avait prise dans le milieu surréaliste. Comme je vous ai raconté, c'était ces histoires de s'exhiber dans la rue, de faire du scandale, de faire des... Et cela, évidemment, c'était intéressant, c'était très brillant. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, surtout à l'époque. L'apport de Dali a été très personnel, très en dehors de tout le mouvement. Mais je ne vois pas l'écho parmi les surréalistes. C'est-à-dire que je ne vois pas qui a pris cela comme lettre vivante. Et ça n'est pas parce que Dali est devenu Avida Dollar que cela a été la mort du surréalisme.
Je crois que la pire des choses qu'on puisse dire de Dali, c'est de dire que c'est un peintre surréaliste.
Et vous l'appelez comment ?
Dali. Et je rejoins la pensée de Dali qui dit « Peut-être un jour arriverai-je à être Dali ».
Le docteur Rumger qui vient d'intervenir connaît bien Dali pour lui avoir consacré plusieurs études psychanalytiques.
Mais écoutez, la période surréaliste, c'est avant même qu'il commence à peindre, ou que dans ses fantasmes, de grandiose d'ailleurs, déjà dalinien, dans son baquet, n'est-ce pas ? Le haut et le bas, le grotesque et le sublime, c'est vraiment shakespearien. Il n'y a pas une dimension peinture. D'ailleurs, lui-même le dit, moi, mais je ne suis pas un peintre, je suis un poète, je suis un dramaturge, je suis un philosophe. Dali est tout, il est peintre en particulier. Pour tout, il est aussi. C'est un critique d'art extraordinaire. Voyez les cocus de l'art moderne. Si toutes les œuvres de critique de notre peinture et la peinture disparaissaient, on aurait les cocus de l'art moderne, on aurait presque tout.
Vous avez raison, mais là vous échappez un peu à la question. En réalité, je vous disais, lui-même dans sa peinture,
Parce qu'il y a du langage.
Oui.
Mais je ne crois pas que le surréalisme soit pour Dali un problème et qu'il en fasse une articulation ou un mot important quand il parle de lui. Ça va beaucoup plus loin. Le surréalisme est un mouvement littéraire. C'est illustratif, c'est du figuratif, c'est un mouvement mort. Il y a un mouvement vrai, c'est Dada.
Cependant, en 1933, Dali, dans un article du Minotaure, reconnaissait que l'automatisme mis à l'honneur par le surréalisme dépassait et libérait les aspirations latentes de Dada, tout en regrettant la myopie analytique qui porte à considérer l'automatisme comme un but en soi. Il lui opposait l'éblouissante signification dialectique du processus paranoïaque, telle qu'elle lui était apparue dans la thèse de Jacques Lacan, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, parue en 1932. Doctoré, psychiatre.
Je pense que ni Lacan n'a eu la moindre influence sur Dali, ni Dali sur Lacan. Si j'ai bonne mémoire, c'est vers 1932 que, dans le Minotaure, Lacan, qui avait déjà publié ou était en train de rédiger sa thèse sur la paranoïa, thèse à la confection de laquelle j'ai été très intimement mêlé, c'est à ce moment-là qu'il publia une étude dans le Minotaure et qui mettait au premier plan de la connaissance en général, ce qu'il appelait la connaissance paranoïaque, c'est-à-dire au fond une certaine lucidité systématique de l'esprit portée à une sorte de degré absolu. Je ne pense pas que cet écrit ait été lu par Dali peu de temps après. S'il a été lu, il n'a certainement pas beaucoup influé sur lui, à part le mot même de paranoïa, qui est un mot d'ailleurs classique en psychiatrie, et que Dali s'est, pour ainsi dire, approprié à ce moment-là. Je ne pense pas non plus que Dali ait eu la moindre influence sur Lacan, pour la bonne raison que Lacan n'avait absolument pas besoin du prototype, si on peut dire, de la systématisation dalinienne, pour étudier les problèmes de la systématique paranoïa. Alors si maintenant j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce terme de paranoïa critique fait une sorte de jonction entre un psychiatre génial et un peintre génial. Je pense que c'est en effet dans l'idée même de système ou de construction systématique qu'il faut chercher la clé de cette collusion ou de cette identification. Car en effet, ce qu'un psychiatre met en évidence quand il parle d'une psychose paranoïaque, c'est la création et la construction d'une conception absolument systématique, hermétique du monde, systématique, hermétique, telle que rien ne peut en être modifié, et qui atteint par ce degré une sorte d'artificialisme absolu, et qui reste par conséquent un modèle, peut-on dire, de construction complètement abstraite, pour autant qui échappe justement aux exigences de la vie. En quoi consiste son anomalie ? On comprend que, pour un artiste, ce modèle se rabatte pour lui sur son propre travail, qui est aussi, certes, d'une construction, et d'une construction qui, pour Dali, est précisément une construction très systématique. Car l'esprit de Dali, l'esthétique propre à Dali, me paraît être en effet celle d'un très grand système, une sorte de construction extraordinairement abstraite, extrêmement ingénieuse, extrêmement fabriquée, sophistiquée, je dirais dans le sens, je dirais presque, du vocabulaire anglo-saxon du terme, c'est-à-dire une très grande complexité et complexification. Alors c'est pour cela que je pense que l'un, le modèle psychiatrique, et l'autre, le modèle esthétique, se sont un peu rencontrés dans l'esprit de Dali, mais je dirais d'une façon qui reste un peu occasionnelle.
C'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire d'aimer a été, oui, comme une espèce de provocation pour Dali.
Il n'a certainement jamais lu la thèse de Lacan, je suis sûr.
Il prétend l'avoir lu.
Non, certainement pas. Il s'y réfère volontiers,
et avec la promptitude véritablement géniale de son esprit qu'il en ait tiré certainement beaucoup de profit, ça ne fait pas de doute, mais je ne pense pas que dans la réalité des choses, ce soit un ouvrage qui ait tellement servi à Dali d'autre chose que d'une sorte d'alibi.
Qu'est-ce que c'est que cette paranoïa, hein? On sait bien que paranoïaque, ça veut dire... Entre autres, hein, ça met en question quelque chose qui serait d'une espèce de projection, hein, un système comme ça qui se met en place et qui se met à fonctionner très bien tout en laissant la personnalité en dehors, à la limite. Alors, bon, il peut paranoïaquer critiquement devant les images, mais est-ce que c'est pas simplement une espèce d'association, l'association d'idées ? Auquel, d'ailleurs, il ne donnera aucun sens. Simplement, lui, ce qui fait fonctionner, c'est... Dans le bureau du père, il y a les cornes de rhinocéros, la miette de pain qui lui rentre dans le coude et la dentelière de Vermeer. Et à partir de ça, tout s'enchaîne. Hein, et on retrouve la corde de rhinocéros, et puis peut-être aussi la douleur. Et puis ensuite, on voit un tournesol, mais il y a encore des courbes. Et ce serait peut-être la corde de rhinocéros, etc. Hein, mais qu'est-ce qui arrête ça ? Rien.
S'il est vrai, comme vient de le dire Claude Tiss, que l'enchaînement brillant des associations de Salvador Dali donne l'impression de ne pas devoir s'arrêter, il ne se fait pas pour autant dans une gratuité totale. Ainsi, après avoir découvert que la construction de la dentelière de Vermeer était établie selon une spirale logarithmique, il la rapprocha de deux autres manifestations naturelles ordonnées selon le même principe, la corne de rhinocéros et la croissance du tournesol. La passion de Dali pour la spirale logarithmique tient à la formule géométrique qui l'exprime et qui a la propriété de se renouveler elle-même. C'est donc une sorte de négantropie mathématique. L'enchaînement aurait pu s'arrêter là. Mais Dali remarqua alors que chaque élément de la fleur de tournesol est une sorte de petite galaxie qui se développe sur elle-même, phénomène plus visible encore sur le chou-fleur. On se souvient que lors de sa conférence à la Sorbonne en 1955, Dali arriva dans une Rolls remplie de choux-fleurs. L'aspect chair de poule de leur inflorescence glabre l'amena à penser, à contrario, aux poils définitivement hérissés que sont les piquants des oursins. Il expliqua alors que les oursins étaient autrefois des gouttes d'eau qui, en tombant du ciel, avaient eu peur de perdre leur pureté originelle en se mêlant à la terre et avaient eu des frissons d'horreur. Leurs poils hérissés s'étaient peu à peu transformés en piquants. C'est sur cette légende de l'origine des oursins que Dali termina l'une de ses plus longues associations d'idées. Si elles sont partiellement dépourvues de rigueur, sont-elles pour autant à rejeter sans examen? La paranoïa critique de Dali serait-elle un simple bluff? Dr. Runger.
Son génie a été de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'en faire un objet. Un objet d'étude qu'il a nommé méthode paranoïaque critique. Autrement dit, il a réalisé cette chose impossible. Schopenhauer disait, on ne peut pas être à sa fenêtre et se regarder passer dans la rue. Eh bien, voilà. Voilà le mystère et le caractère grandiose de la schizophrénie, c'est qu'on peut faire les deux. Il n'était pas objet et sujet, comme l'est le paranoïaque, le malade mental, de son hallucination. Il était à sa fenêtre et se regardait passer dans la rue. Eh bien, ça, c'est la caractéristique de la schizophrénie, n'est-ce pas ? Et or, la schizophrénie est toujours étiquetée schizophrénie paranoïde. Il y a des éléments paranoïaques, mégalomane, persécution. La schizophrénie, schizophrénos, l'étymologie, c'est une fissure au sein de l'être. C'est une faille, une coupure. Très précocement, Dali a eu une coupure vitale, existentielle, fondamentale, et il a fallu qu'il s'en tire.
Henri-François Rey, écrivain français qui vit à Cadaqués, nous confirme l'importance de la paranoïa critique pour Dali.
Avant l'invention du Librium, il a inventé la paranoïa critique, et ça lui a sauvé la vie. Car c'est un grand paranoïaque, et il fallait, comme tout paranoïaque, qu'il justifie sa paranoïa, qui lui donne des structures. Et comme il est intelligent, et que malheureusement, les paranoïaques qui sont dans les asiles ne sont pas forcément intelligents, et donc subissent le monde extérieur, les agressions du monde extérieur, lui est assez intelligent pour avoir donné des structures à quelque chose qui a été son Librium ou son Equanil toute sa vie. Bien sûr que c'est le seul surréaliste qu'il a utilisé, et bien sûr que c'était inutilisable, sauf par Dali. Mais c'est quand même un personnage assez fondamental qui a pu inventer pour lui-même son propre médicament. Il y en a très peu.
Pour nous faire mieux comprendre le mécanisme de la paranoïa critique, le docteur Runger analyse le tableau que Dali peignit en 1965, La gare de Perpignan. Voici la description que le peintre lui-même en fit.
Gala, regardant Dali, en état d'antigravitation au-dessus de son œuvre d'art. Hop, hop, yes, yes, pompier, dans laquelle nous pouvons contempler les deux personnages angoissants de l'Angélus de Millet, en état atavique d'hibernation, devant un ciel qui peut soudainement se transformer en une gigantesque croix de Malte, au centre même de la gare de Perpignan, vers laquelle tout l'univers converge.
Tout Dali est là. On pourrait même faire l'émission totalement en commentant ça. Car, remarquez bien que l'Angélus de Millet, auquel il a consacré une étude qui est sublime, y compris au point de vue psychanalytique, ça vaut le grand Freud. Avec en plus la qualité phénoménologique de Bachelard et du super Bachelard. C'est le meilleur Dali dans le prolongement de Freud. Cette brouette, il l'a représentée deux fois. Mais il n'y a pas de doute, il y a une dualité. Il y a un coït splendide. Bon, il y a donc la scène primitive, indiscutablement. Là, il y a une scène à trois. Il y a donc le père, il recommence à sodomiser, apparemment.
Mais le sac de pommes de terre, cette fois-ci.
Mais oui, et qui est clivé en deux parties par les bras qui en serrent. Alors là, si vous reportez au modèle original, n'est-ce pas, vous cache son émotion coïtesque avec sa casquette, son chapeau.
Brassaï, qui photographia pour Dali un service à café portant la célèbre peinture de Millet, a écrit dans ses souvenirs...
Qui aurait pu supposer que cet anodin tableau de genre, pieuse image d'un couple de paysans inclinés, absorbés dans la prière du soir, aussi répandue dans les foyers humbles que la Vierge de Lourdes, était l'image de la perversion même, l'exemple rêvé, le monument du refoulement sexuel. Comment la sublime hypocrisie symbolique de l'Angélus, écrivait Dali, obsession des foules, aurait-elle pu se soustraire à une si flagrante furie érotique inconsciente? Et il m'affirmait que c'est l'invisible vautour, apparu en rêve à Léonard, décelé et interprété par Freud dans La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne du Louvre, qui l'avait mis sur la voie de la découverte. Il crevait les yeux, selon Dali, que cette fourche fichée dans la terre à côté de l'homme, que cette brouette chargée de sacs de pommes de terre béants derrière la femme, symbolisait les sexes masculins et féminins. Et c'est à son érotisme latent qu'il attribuait l'incroyable popularité de ce tableau. Dali en était si obsédé que pendant des années, il introduisait l'Angélus dans ses propres toiles et collectionnait tous les objets empreints de ce simulacre crépusculaire. C'est ainsi que je photographiais un jour chez lui un service à café dont chaque tasse, chaque récipient portait la scabreuse peinture de Millet. Or, personne ayant lu l'interprétation de Dali ne pouvait plus voir le couple en prière avec les mêmes yeux innocents qu'auparavant. Sa dialectique perverse avait porté, et soudain, maintes autres toiles de Millet devenaient suspectes, chargées d'impulsions érotiques.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une différence entre Dali investissant dans l'Angélus de Millet,
oui,
et par ailleurs Dali organisateur de ces tableaux?
Il y a un point commun. Et le point commun, c'est le génie propre à Dali, qui est une sorte de fantastique génie du fantastique, ou de l'insolite. À mon avis, c'est un des plus grands artistes dans ce sens. Et par conséquent, soit qu'il paraphrase, peut-on dire, ou qu'il disloque l'Angélus de Millet, soit qu'il compose une de ses grandes compositions des paysages mythologiques ou de la Costa Brava, dans les deux cas, ce qui importe, c'est pas tellement ce qu'on peut voir par le petit bout de la lorgnette de l'analyse après coup de l'œuvre, c'est plutôt l'invention que son propre génie apporte et lui fait découvrir, soit dans un tableau peint par un autre, soit en construisant lui-même le sien, et lui fait découvrir de véritablement fantastique. Et c'est cette création de fantastique qui, au fond, fait que l'un ou l'autre procédé ne peut pas s'être séparé.
Il y a en effet chez Dali un mouvement dialectique qui tente à concilier les contraires, de sorte qu'on a pu dire qu'il traitait le surnaturel avec naturel, et obliger l'artificiel à faire partie de sa perception spontanée du monde.
À la primauté de l'œil sur l'oreille, évidemment, c'est ce qu'il disait Leonardo da Vinci. C'est pour ça que j'ai un mépris assez accentué pour la musique. Parce qu'en musique, vous ne pouvez pas dire même les choses les plus simples. En musique, vous ne pouvez pas dire « Soyez gentil, allez chercher le chapeau que j'ai oublié dans la chaise qui se trouve à côté de la cuisine dans la salle à manger. »
À l'opéra, on peut le dire.
Ah, par la parole. Mais en musique, vous ne pouvez rien dire.
Oui.
Alors, la musique, c'est ce qui fournit le moins de bits d'information de tous les arts.
Pourtant, vous aimez l'architecture et vous savez qu'au Moyen-Âge, tous les architectes étaient musiciens et Gaudi a appris la musique grégorienne avant de construire la Sagrada.
Alors, c'est très utile. Je ne dis pas que ce soit utile. Mais au point de vue réalisation en elle-même, zéro.
Il y a peut-être quand même des correspondances mathématiques.
Il y en a, mais comme qu'ils ne sont pas du domaine de la connaissance exacte, ça reste toujours dans le domaine des sentiments et des émotions.
Oui.
Dans le domaine que Nietzsche appelait de la volonté. Une marche militaire, c'est très bien pour faire marcher, faire affluer le sang plus vite dans le corps. Ça, certainement, il peut produire facilement de la chair de poule. Mais ce n'est pas la chair de poule que je cherche dans le domaine des connaissances artistiques, mais la quantité d'informations précises et mathématiques.
À propos de ça, on peut dire que même que votre œil à la recherche d'informations précises a une certaine boulimie.
C'est un œil cannibale. Je suis assoiffé de vision, ça il n'y a pas de doute. Et chaque fois, je regarde plus. À mesure que je vieillis, l'œil prend une importance plus catégorique.
C'était Le Grand Masturbateur, le 7e des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre-musée, proposé par Daniel Lecomte, avec Salvador Dali, Robert Lebel, critique, Claude Tiss, psychanalyste, Henri Hay, psychiatre, Jacques Hérold, peintre, Henri-François Rey, écrivain, et le docteur Roumeguer, psychanalyste de Dali. Réalisation Jacqueline Archambault, première diffusion sur France Culture, le 14 novembre 1978, dans Les Nuits Magnétiques. À suivre.